Bonjour à tous. Quelques centaines d'agriculteurs ont allumé hier soir des feux de la colère, incendiant palettes, bottes de paille et souches. En Île-de-France notamment, ils veulent exprimer le malaise du monde agricole. Témoignage à suivre dans un instant. Nous ferons ensuite le point sur le nombre de femmes potentiellement concernées par la PMA pour toutes. Enjeu sociétal avec un débat qui commence à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mardi. Dans cette édition encore, portrait croisé du Premier ministre sortant en Israël, Benjamin Netanyahou, et du président, Reuven Rivlin. Les tractations se poursuivent pour tenter d'arriver à un gouvernement de coalition. Et puis nous irons au Sénégal, auprès d'hôteliers et de touristes, après la faillite du voyagiste Thomas Cook. Près de Dakar, personne n'est vraiment surpris, vous l'entendrez. Des feux se sont allumés aux quatre coins de l'Île-de-France hier soir. Des feux de la colère, baptisés ainsi par des agriculteurs du Val-d'Oise, des Yvelines et de l'Essonne. Une opération qui tend déjà à se propager jusqu'en Haute-Garonne et dans le Pas-de-Calais. Les agriculteurs, conduits par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, se disent à bout, accusés de tous les maux. Ils dénoncent les raccourcis qui les stigmatisent, les agressions, les insultes, les intrusions. Mais ce sont les projets de zones de non-traitement aux abords des habitations qui les font désormais réagir et donc allumer tous ces feux. Manuel Ruffez était à leur côté hier soir.
Il est 20h, ils sont quasiment prêts. On est aux portes de la ville d'Étampes, dans un champ. Un grand trou, des palettes entassées là. Le feu va bientôt prendre. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là ?
Un feu pour montrer la colère de la profession. Quand on entend sans arrêt qu'on tue, qu'on donne le cancer avec les phytos, je veux dire, sans arrêt, on entend ça aux infos et c'est un peu agaçant.
L'utilisation des phytos, des pesticides, c'est ce qui a mis le feu au brasier. Cette histoire de distance, 150 mètres ou 10 ou 5, zone à ne pas traiter, ils n'en veulent pas. Comme Lucie, ils disent qu'ils savent travailler.
On est tous formés pour ça et en plus de ça, on fait déjà ce qu'il faut. Enfin, souvent, on traite à côté des clôtures, enfin, ça passe du bon sens. On traite sans vent, enfin, 20 km de vent, vous ne les ressentez pas et pourtant, nous, on ne sortira pas notre pulvérisateur.
Et ce qu'ils décrivent tous est effrayant. Une ambiance délétère, l'agriculteur bouc émissaire. Damien Greffin, le patron de la FRSEA Île-de-France, peut en parler.
Tous, hein, on est pointés du doigt, pris en photo, c'est-à-dire que vous arrivez en bordure de route avec votre tracteur, on vous prend en photo et avant que vous soyez arrivé, la voiture est repartie. C'est des insultes, des bras d'honneur. Il y a même un certain nombre d'agressions physiques où on monte sur votre tracteur comme ça, avec un fusil, comme c'est arrivé en Seine-et-Marne la semaine dernière.
On fait ce métier pour nourrir les hommes, pas pour les empoisonner. C'est le message qu'ils veulent faire passer.
Manuel Ruffez pour ce reportage. C'est au tour de la CGT de défiler ce mardi dans toute la France contre la future réforme des retraites pour laquelle le gouvernement prend désormais son temps. Solidaires, la FSU, l'UNSA Ferroviaire ainsi que l'UNEL et l'UNEF se sont joints à cet appel à manifester. On fait une première mobilisation, il y en aura d'autres, promet déjà Philippe Martinez. Le secrétaire général de la CGT s'en expliquera sur France Culture. Il sera l'invité des matins à partir de 7h40 tout à l'heure. On dit de lui qu'il s'agit du texte de tous les dangers, parce qu'il y est question de la procréation et de la famille d'encadrement de cette procréation avec d'éventuelles dérives. Le projet de loi sur la bioéthique va commencer à être discuté cet après-midi à l'Assemblée nationale. La question de la procréation médicalement assistée pour toutes focalise les attentions. Mais va-t-il vraiment y avoir de gros changements, Daniel Messager ?
C'est un débat présenté comme bousculant la société. Pour autant, le nombre de femmes concernées par la PMA pour toutes, c'est l'article premier, le sujet phare, ne va concerner que 2000 femmes supplémentaires chaque année. Alors en quoi peut-il bouleverser une société ? D'abord parce que dans cette assistance médicale à la procréation, on n'est plus dans le domaine de l'infertilité, la médecine interviendra dans un domaine non médical. Parce qu'on touche au droit, les deux membres du couple de femmes devront donner leur consentement devant notaire, mettant sur un pied d'égalité la femme qui accouche et celle qui s'engage à remplir un rôle parental et ne pourra se soustraire à ses devoirs en cas de séparation. Parce qu'elle répondra aux interrogations des 1400 enfants nés par don de gamètes chaque année, qui devenus adultes veulent savoir, ils pourront avoir accès à des données identifiantes. Alors oui, pour toutes ces raisons, ce texte est emblématique d'une avancée sociétale, même si elle est trop rapide pour certains ou trop lente pour d'autres, mais conforme aux principes bioéthiques.
Daniel Messager, avant ce projet de loi sur la bioéthique, débattu donc cet après-midi à l'Assemblée nationale, plus de 2500 amendements ont été déposés. 66 États sont réunis pour le sommet de l'ONU sur le climat en ce moment à New York. Il y a eu hier de grands absents, notamment le Brésil, l'Australie, le Canada. Donald Trump pour les États-Unis, lui, a finalement fait une très brève apparition. Message d'Emmanuel Macron par ailleurs, le Français appelle à agir plus vite et plus fort pour le climat. Un peu plus tôt dans son avion, le président français conseillait aux jeunes d'aller manifester en Pologne pour, dit-il, l'aider à faire bouger ceux qu'il n'arrive pas à faire évoluer. Réaction de l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, on aimerait qu'il agisse plutôt dans notre pays. Dans ce sommet, on retiendra par ailleurs le discours de Greta Thunberg en ouverture. Tout ce dont vous parlez, c'est d'argent. Comment osez-vous, a lancé la militante écologiste les larmes aux yeux. J'ajoute que pendant ce temps, à New York également, l'ONU a annoncé la création d'un comité constitutionnel pour la Syrie. Composé de représentants du pouvoir et de l'opposition, il devra travailler sur la constitution et ouvrir la voie à des élections. Il s'agit d'un premier pas vers un règlement politique du conflit qui a, rappelons-le, fait plus de 370 000 morts depuis 2011. En Israël, le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, et son rival, le centriste Benny Gantz, ont entamé hier des négociations pour former un gouvernement d'union nationale. Ils étaient par ailleurs invités par le président israélien hier. Reuven Rivlin est une grande figure du Likoud, le parti de Netanyahou, qu'il a d'ailleurs présidé, mais le président et le premier ministre ne sont pas pour autant sur la même ligne, Frédéric Mettezo.
Reuven Rivlin, 80 ans, c'est l'anti-Netanyahou à droite. Chaleureux, il met ses interlocuteurs à l'aise quand le Premier ministre aime jouer du rapport de force. Leur père était de grands universitaires, celui de Netanyahou, un historien profondément anti-arabe, celui de Rivlin, un linguiste qui a traduit le Coran et les mille et une nuits en hébreu, et cela se retrouve aujourd'hui. Netanyahou voit les Arabes israéliens comme un ennemi intérieur, et Reuven Rivlin prône leur stricte égalité avec les Juifs. Voilà pourquoi Netanyahou a tout fait pour que Rivlin ne soit pas élu président, et depuis, ce dernier égratigne régulièrement le Premier ministre.
Je vous assure que nous pouvons et que nous devons conduire un État juif et démocratique, qui n'en sera pas moins juif ni moins démocratique.
Rivlin est un faucon intraitable avec l'Iran et opposé à un État palestinien, mais il défend aussi l'État de droit et la liberté de la presse, alors que Netanyahou a les magistrats et les journalistes en horreur. Les deux hommes s'accordent sur un point, Rivlin est végétarien depuis plus de 50 ans et Netanyahou ne mange presque plus de viande, mais il a encore l'appétit du pouvoir et espère bien que son vieux rival ne lui barrera pas la route.
La faillite du voyagiste Thomas Cook compromet les excursions de nombreux touristes un peu partout dans le monde. Nous l'évoquions hier ici même. Ils sont 600 000 à devoir être rapatriés dans les prochains jours, dont 10 000 Français environ. Certains avaient choisi de partir au Sénégal, où des hôtels partenaires du voyagiste sont implantés, près de Dakar notamment. Là-bas, la faillite de Thomas Cook était jugée prévisible. Le modèle des tours opérateurs ne fait plus recette dans le pays, comme l'a constaté William Delesseux.
Au Royal Horizon Baobab, des animateurs de Jet Tour, filiale de Thomas Cook, font leur chorégraphie devant la piscine. La consigne, faire comme si leur entreprise n'avait pas fait faillite et surtout ne pas répondre aux journalistes. Jean-Philippe Ferrini, le directeur du complexe de 250 chambres, tente lui aussi de dédramatiser.
Inquiet, non. Triste et déçu, oui, parce que ça reste un grand partenaire. Nous n'avons reçu aucune directive de la part de Thomas Cook France et Jet Tour. Donc pour nous, le travail continue jusqu'à qu'on ait plus d'informations.
La direction de l'hôtel refuse toute interview avec les clients. Sans Thomas Cook, c'est l'économie de la station balnéaire qui est menacée. Mariam Diouf à la tête du village artisanal.
Ah oui, parce que nous on travaille pour les touristes et Jet Tour aussi. Les derniers jours de vacances, quand les vacances sont finies, on vient nous voir pour des souvenirs.
C'est un coup dur pour Valérie Birambas, également artisan.
Oui, bien sûr, on est très très inquiet, on est très ému quand même. Et nous sommes très peinés par cette faillite de Thomas Cook qui nous servait beaucoup de clients et qui venait souvent nous voir au village artisanal et nous faire travailler.
Ce modèle, celui des vacances tout inclus, ne séduit plus les touristes qui viennent au Sénégal. En 2007 déjà, Thomas Cook avait pris la décision de fermer et revendre un gigantesque village sur la côte, un village fantôme qui n'a jamais rouvert.
C'était William Delesseux à Dakar pour France Culture. Le temps de ce mardi en France métropolitaine, il sera pluvieux et venteux. Seul l'extrême sud de la côte méditerranéenne sera au sec aujourd'hui. Ce matin, comptez 15 degrés à Strasbourg et Lyon, 16 à Paris, 18 degrés à Rennes et Bordeaux, 23 degrés dans la matinée à Nice.